Vous écoutez, on lit pour vous.
Sortir les gens de leur indifférence. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Il pleut des cordes à Carleton-sur-Mer. Impossible de profiter de la terrasse du restaurant Cap à la mer qui offre un panorama spectaculaire sur la baie des Chaleurs. Pas grave. Émile Roy et moi, nous attablons à l'intérieur, au bord d'une fenêtre, où, malgré le temps gris, la vue est époustouflante. Le grand-père d'Émile Roy, Michel, a été journaliste, rédacteur en chef du Devoir et éditeur adjoint de La Presse. Son père, Patrice, anime le téléjournal à Radio-Canada. La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Émile n'est pas journaliste, mais possède une imagination et une sensibilité qu'il confie vouloir transmettre différemment. C'est principalement dans les nouveaux médias que l'homme de 26 ans se démarque. Il préfère ne pas dépendre d'une seule plateforme. L'art, croit-il, doit pouvoir exister à la fois sur TikTok et dans un musée. Sa page YouTube, où il publie des courts et moyens-métrages portant sur des sujets comme les changements climatiques, la politique, l'amour et l'anxiété, compte 166 000 abonnés. Sur Instagram, il est suivi par 34 000 personnes. Sur TikTok, par près de 30 000 abonnés. Il exécute aussi des contrats pour des séries documentaires et des publicités. Comment se décrit-il? J'accepte tous les mots. Ce que je préfère, c'est réalisateur ou vidéaste. Ce sont ceux qui sont les plus clairs à propos de ce que je fais au quotidien. Écrire, filmer, monter et souvent mener des équipes créatives autour de moi. Sa mission? Parler des sujets les plus viscéraux pour les gens et le faire de manière, j'espère, positive. Si c'est un documentaire sur les changements climatiques, il faut que j'apporte soit de nouvelles informations, soit des solutions, soit de l'espoir. Ça doit apporter quelque chose. Il faut que ça parle des sujets qui touchent le plus les gens. C'est ce que j'aime le plus au monde. L'amour moderne, comment renverser l'éco-anxiété, l'épidémie de la solitude et la politique de la peur sont quelques-uns des titres que l'on retrouve sur sa page YouTube. Ils vont de courts-métrages de 15 minutes à des moyens-métrages d'une heure. Et dans chacun d'eux, on devine un travail de recherche en profondeur. Parfois, ça peut se faire en une nuit, explique-t-il, en donnant l'exemple d'une vidéo au sujet des bombardements sur Gaza qui a atteint 2 millions de personnes en quelques heures. D'autres fois, ça peut se faire en un an ou même plus. Parfois, ce sera avec 0 $ de financement. D'autres fois, avec un très bon financement. Parfois, il s'entoure d'une petite équipe. D'autres fois, il réalise ses projets tout seul. Parfois, il est devant la caméra. D'autres fois, non. Documenter la forêt amazonienne. À la fin de l'année 2024, Émile Roy s'est envolé pour le Brésil. Il a passé 3 semaines en Amazonie. Armé de sa caméra et accompagné d'une amie anthropologue, il a arpenté la forêt amazonienne afin d'y documenter la violence envers les peuples autochtones. L'Amazonie représente pour moi le combat climatique mondial. Il n'y a pas plus symbolique que ce qui se passe là-bas. C'est comme le poumon du monde. On a pu habiter avec les peuples autochtones pendant plusieurs semaines. Ils nous ont emmenés vraiment loin dans la forêt, dans des réserves protégées et traditionnel dans l'Amazonie. Là-bas, il a rencontré plus d'une centaine de personnes, des habitants, des membres d'organismes et des spécialistes du climat qui travaillent à protéger la forêt. Au moment de notre rencontre, le réalisateur se préparait à présenter son documentaire d'une heure à des diffuseurs télévisuels. Ce qui est assez inhabituel, c'est que j'y suis allée sans avoir aucune entente, rien. Je me suis dit, au pire, ce sera sur ma chaîne YouTube. C'est encore une possibilité. Toucher les indifférents. Émile Roy se souvient nettement de la journée où est née sa passion de faire des vidéos. Il avait 10 ans. Sa grande cousine possédait une caméra et s'était mise à les filmer, sa sœur et lui. J'ai dit, « Attends, n'importe qui peut filmer? Je pensais que c'était Hollywood seulement. » Cet après-midi-là, le trio a fait un court-métrage. Sa sœur jouait un voleur, lui, un policier. Ce jour-là, ma vie a changé, affirme-t-il. C'était comme de la magie. Waouh! Je peux faire un film! Ma vie prenait une dimension extraordinaire. C'est à l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, qu'Émile Roy a lancé sa page YouTube. Au début, il réalisait des courts-métrages, des fictions classiques humoristiques. J'étais assez gênée, donc je n'étais pas devant la caméra du tout. Gênée? Très gênée. J'étais hyper timide. C'est ce qui est beau. Au fil des projets, je me dégênais. Les gens me donnaient de la reconnaissance. Ça me donnait la confiance d'aller plus loin au prochain projet, d'aller devant la caméra, de prendre des risques. Au fil des années, sa passion s'est développée jusqu'à avoir un impact sur les gens et le monde. En 2019, année de la Grande Marche pour le climat, qui a réuni 500 000 personnes dans les rues de Montréal, deux de ses vidéos sur les changements climatiques ont rejoint plus de 2 millions de personnes chacune. C'est là que, dit-il, tout a décollé. Après 7 ans à travailler à temps plein comme réalisateur vidéaste, Émile Roy n'est pas là où il veut être. J'ai des projets, explique-t-il, tellement plus ambitieux que j'ai envie de faire plus tard, et je n'y suis pas du tout encore. Je sais tout le chemin qu'il y a encore à faire. Il caresse des projets ambitieux, des documentaires, de la fiction et, éventuellement, des longs-métrages et des séries. Il souhaite surtout arriver à toucher le grand public, lui qui s'adresse actuellement principalement aux 18 à 45 ans. Son objectif est d'aller chercher ceux qui sont indifférents. Pas seulement ceux qui sont déjà convaincus, disons, par l'importance de la lutte contre les changements climatiques. On veut aller chercher le grand public qui est chez lui, qui est déjà affecté par le chaos, pas tellement de nouvelles au quotidien. On veut essayer de lui offrir un projet qui lui apporte quelque chose, qu'il sorte de son indifférence pendant un moment. Questionnaire estival. À quoi ressemble ton été idéal? Un mélange parfait d'aventure, de road trip, de coups de soleil, de sport, de musique, de lecture, de travail lent, de longues discussions et de soirées festives avec les amis et la famille. Quel livre veux-tu lire absolument cet été? Je plonge dans l'œuvre de Dany Laferrière. Je viens de finir « L'art presque perdu de ne rien faire » et « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». J'aimerais enchaîner avec tous les suivants. Je trouve son écriture profondément drôle et intelligente, d'une justesse foudroyante sur notre époque et qui transpire le soleil. Si tu pouvais prendre un verre avec une personnalité, ce serait Florence Lompré, pour discuter avec elle de son chef-d'œuvre « Empathie », qui est la meilleure série québécoise des dernières années. Sinon, Jay Dutemple, parce que son parcours sportif et humoristique, ainsi que sa personnalité, m'inspire beaucoup. Qui est Émile Roy? Émile Roy est un réalisateur et vidéaste multiplateforme qui s'est surtout fait connaître sur YouTube, où il est suivi par plus de 167 000 abonnés. Il est le fils de Patrice Roy, chef d'antenne du Téléjournal de Radio-Canada, et le petit-fils de Michel Roy, qui a été journaliste, rédacteur en chef au Devoir et éditeur adjoint à la presse. L'amour moderne, comment renverser l'éco-anxiété, l'épidémie de la solitude, la politique de la peur, sont quelques-uns des courts et moyens métrages que l'on retrouve sur sa page YouTube. C'était Sortir les gens de leur indifférence. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
Incarner la masculinité en léotard. Une entrevue réalisée par Benoît Lelièvre, parue le 26 juin 2025 dans Urbania. Retour sur la carrière d'un danseur de ballet qui bouscule les jugements et les stéréotypes. Le ballet, c'est pour les filles. L'injonction vous est sûrement familière. Avant que les Harry Styles et Jay Dutemple de ce monde ne délivre symboliquement la masculinité occidentale de ses propres lois en portant des colliers de perles et du vernis à ongles, les normes de genre étaient si ancrées dans les mentalités qu'on n'y pensait presque plus, et ceux et celles qui osaient les défier étaient l'exception plutôt que la norme. Et parmi ces exceptions, il y a Guillaume Côté. Danseur de ballet d'élite, largement considéré comme le meilleur de sa génération, hétérosexuel et père de deux enfants. Être danseur de ballet à Métabetchouan dans les années 1990, c'était être différent. Et pour être différent à cette époque-là, que tu sois danseur, fleuriste ou juste membre de la communauté LGBTQ+, moins, ça demandait un certain courage, raconte le principal intéressé. À 43 ans, Guillaume Côté vient tout juste de tirer sa révérence. Aujourd'hui, à la barre de sa propre compagnie de danse et du Festival des arts de Saint-Sauveur, l'ex-danseur étoile a encore le feu sacré pour le métier et, plus que jamais, il assume la responsabilité d'être le Mario Lemieux en léotard des garçons qui ne veulent pas jouer au hockey. On peut sortir le petit gars du lac. Guillaume Côté naît dans une famille aux intérêts artistiques, ses parents s'impliquant dans la fondation Le Prisme culturel à Alma. Mon père était aveugle d'un œil et il avait de la difficulté dans les sports à cause de ça. Alors il s'est tourné vers les arts. La musique classique surtout, explique-t-il. Guillaume enfile ses premiers chaussons de danse à l'âge de 3 ans, et au départ, les cours étaient avant tout une excuse pour passer du temps en compagnie de ses cousins. Puis, c'est en commençant l'école qu'il constate pour la première fois qu'il se trouve en décalage par rapport à la norme. Au lac, à cette époque-là, il y avait deux marqueurs de masculinité importants, le hockey et l'alcool. J'ai joué au hockey pendant un petit bout de temps quand j'étais jeune. Ils m'ont mis dans les buts parce que j'étais capable de faire le grand écart. On me demandait de le faire avant les matchs pour intimider l'équipe adverse, mais une fois dans le feu de l'action, ça m'était pas tant que ça, se souvient Guillaume avant d'éclater de rire. Le grand déclic se produira au visionnement du film « White Knight », plus particulièrement du numéro d'ouverture intitulé « Le jeune homme et la mort », chorégraphié par Roland Petit et interprété par nul autre que Mikhaïl Baryshnikov. Le petit Guillaume l'ignorait encore, mais le destin lui ferait éventuellement rencontrer les deux hommes. À l'âge de 11 ans, Guillaume déménage à Toronto avec son cousin Raphaël pour étudier à l'École nationale de danse du Canada et laisse derrière lui ses racines et ce décalage qui l'éloignait des jeunes de son âge. Vers l'âge de 7 ans, peut-être, il y en a quelques-uns qui ont commencé à comprendre et j'ai entendu les insultes d'usage pour la première fois. C'est là que je me suis retrouvé de plus en plus isolé. Mais j'allais retrouver mes cousins au ballet au lieu de fréquenter des amis de l'école. J'ai toujours été bien entouré, se rappelle Guillaume. Malgré tout, Guillaume garde un bon souvenir de son enfance au lac Saint-Jean. Il y est d'ailleurs retourné cet hiver pour une ultime représentation d'Hamlet, prince du Danemark, à Alma, une production qu'il a co-signée avec Robert Lepage. À un moment donné, tu commences à réussir. Tu passes dans le journal et les gens sont fiers. Ils passent par-dessus leurs a priori et là, il y a un certain niveau d'acceptation. Je te mentirais si je te disais qu'il n'y avait pas eu un petit sentiment de victoire avec ça, confie-t-il avec le sourire. Excellence, égo et équilibre. Comme l'affirme l'auteur Mark Manson, une vie sans problème, ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est se créer de meilleurs problèmes. Des problèmes qu'on a envie d'avoir. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Guillaume à Toronto. Dans un milieu où le ballet occupe toute la place, son talent a pu se développer à la hauteur de son potentiel, mais il était encore isolé parmi ses pairs. À l'école de ballet, les filles se tiennent ensemble. La plupart des gars font leur coming out et se regroupent entre eux parce qu'ils vivent les mêmes enjeux. J'ai vécu beaucoup de solitude pendant ces années-là. Une chance que j'avais mon cousin, parce que je ne serais pas passé au travers. Malgré tout, cette solitude lui a permis de se concentrer sur lui-même et de repousser ses limites. Même si le ballet est un travail d'ensemble, Guillaume affirme qu'un certain niveau d'égoïsme est nécessaire pour atteindre l'excellence. C'est ton corps, ta carrière, tes choix. Tu ne peux pas penser aux gens autour de toi. Tu dois d'abord te concentrer sur ton cheminement. Selon lui, ce rapport à l'ego se transmet parfois dans les rapports hiérarchiques, puisque ce sont les meilleurs danseurs qui gravissent les échelons et deviennent chorégraphes ou directeurs artistiques. Un piège dans lequel Guillaume s'efforce de ne pas tomber aujourd'hui. J'ai été très chanceux parce que j'ai eu des femmes extraordinaires comme professeurs, chorégraphes et directrices artistiques qui nous demandaient toujours comment on allait avant de commencer à travailler. C'est quelque chose que j'essaie d'emmener dans mon rôle de directeur artistique, affirme Guillaume. La danse comme allié. Grâce à son talent, mais aussi à ses racines de petit gars de région qui a su rester authentique, Guillaume a pu atteindre le sommet de son art. Il a notamment pu travailler avec l'homme qui lui a donné envie de devenir danseur professionnel, une rencontre qui servira de catalyseur pour le reste de sa carrière. Ce qui est incroyable avec Baryshnikov, c'est son humilité et sa simplicité. On est dans la pièce quelques minutes avec lui et on oublie qui il est. Il est là pour travailler et créer des liens. Il est là pour les bonnes raisons, pas pour son ego. Un modèle qui lui est venu en aide quand il a traversé des moments plus difficiles. Par exemple, lors de son divorce avec Heather Hogden, danseuse au Ballet national du Canada et mère de ses deux enfants. À ce moment-là, on préparait Hamlet, prince du Danemark. C'est une pièce où il y a énormément de paranoïa, et quand Heather et moi nous sommes séparés, des clans se sont formés. C'est ironique, parce qu'elle et moi, nous sommes bien entendus tout au long du processus. Mais là, tu sais plus qui t'aime. Tu sais plus qui tu détestes. Tu vis de grosses émotions. Il m'arrivait parfois de pleurer en dansant, raconte-t-il. Maintenant, c'est de derrière le rideau que Guillaume désire propager son amour pour la danse. Il n'y aura peut-être jamais un autre Guillaume Côté sur les scènes canadiennes, tout comme il n'y aura jamais un autre Mario Lemieux sur les patinoires, mais l'ex-danseur est prêt à partager son savoir afin de former le prochain Sidney Crosby. Si j'avais une chose à dire à un jeune danseur, c'est que la puissance vient avec l'intelligence et le cœur. C'est bien beau être capable de bouger, mais il faut savoir bouger pour émouvoir les gens, et ça, ça vient avec l'expérience, la confiance et la vulnérabilité. C'est le sociologue Sonny Carpentier qui disait qu'il existe plusieurs masculinités, et la retraite n'empêchera pas Guillaume Côté de dévoiler au monde la force et la sensibilité d'un homme en léotard. C'était « Incarner la masculinité en léotard », une entrevue réalisée par Benoît Lelièvre, parue le 26 juin 2025 dans Urbania.
La CIJ ouvre la voie à des réparations climatiques par les États pollueurs. Un texte de Richard Carter, Delphine Paysan et Benjamin Legendre de l'agence France Presse, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Les États qui violent leurs obligations climatiques commettent un acte illicite et pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés, a conclu mercredi le 23 juillet 2025 la Cour internationale de justice dans un avis consultatif qui a dépassé les attentes des défenseurs du climat. La plus haute juridiction de l'ONU, basée à La Haye, a établi à l'unanimité dans cet avis, initialement demandé par des étudiants sur l'archipel de Vanuatu, une interprétation juridique du droit international sur le climat. Les législateurs, avocats et juges du monde entier peuvent désormais s'en saisir pour changer les lois ou attaquer en justice les États pour leur inaction. Il s'agit d'une victoire pour notre planète, pour la justice climatique et pour la capacité des jeunes à faire bouger les choses, a réagi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué. Radieux, le ministre du Climat du Vanuatu, Ralph Regenvanu, a confié à l'agence France-Presse, AFP, sa surprise de voir tant de choses inattendues et positives dans les conclusions des juges. Nous utiliserons évidemment ces arguments dans nos discussions avec les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, prévient-il. La France a salué une décision historique et une victoire pour le climat par la voix de sa ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Parmi les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, du très climato-sceptique Donald Trump, ont été les premiers à réagir dans une déclaration certes lapidaire. les États-Unis examineront l'avis consultatif de la Cour dans les jours et les semaines à venir, a fait savoir à l'AFP le département d'État. La dégradation du climat causée par les émissions de gaz à effet de serre est une menace urgente et existentielle, a déclaré le juge Yuji Iwasawa, président de la Cour, lors d'une lecture solennelle de 2 heures de l'avis, salué par des applaudissements des militants qui ont suivi l'audience sur un écran géant à l'extérieur du Palais de la Paix. Réparation. La Cour a rejeté l'idée défendue par les grands pays pollueurs selon laquelle les traités climatiques existants et notamment le processus de négociation des COP annuelles étaient suffisants. Les États ont des obligations strictes de protéger le système climatique, arguent les juges. En accord avec les petits pays insulaires, la CIJ confirme que le climat devait être protégé pour les générations présentes et futures, alors que les grands pays pollueurs refusaient absolument de reconnaître les droits d'individus pas encore nés. La partie la plus conséquente de l'avis, qui suscitera le plus de résistance chez les pays riches, découle de ces obligations, les compensations dues aux pays ravagés par le climat. Les conséquences juridiques résultant de la commission d'un fait internationalement illicite peuvent inclure la réparation intégrale du préjudice subi par les États lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction, estiment les 15 juges du tribunal. Mais la Cour place la barre haut. Un lien de causalité direct et certain doit être établi entre le fait illicite et le préjudice, certes difficile à établir, mais pas impossible pour autant, écrivent-ils. Il s'agit du 5e avis unanime de la Cour en 80 ans, selon l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies avait voté pour le demander. Pour l'étudiant fidjien, qui a mené la campagne depuis 2019, le jour restera mémorable. Quelle fin parfaite pour une campagne qui a débuté dans une salle de cours, a dit à l'AFP Vishal Prasad, présent à La Haye. Nous avons désormais un outil très, très puissant pour demander des comptes aux dirigeants. La CIJ a donné tout ce qui était possible. Historique. Il faudra des jours pour que les juristes digèrent l'avis de 140 pages et encore plus pour voir comment des tribunaux s'en emparent. Mais d'ores et déjà, de nombreuses voix interrogées par l'AFP, expertes et militantes, soulignent le caractère historique de l'avis. C'est une victoire historique pour la justice climatique, a réagi l'ancien rapporteur spécial de l'ONU pour les droits humains et l'environnement, David Boyd. L'interprétation par la Cour des obligations des États sera un catalyseur pour accélérer l'action climatique, selon lui. Les climatologues les plus déçus par l'action politique mondiale approuvent. C'est une décision majeure, dit à l'AFP Johan Rockström, directeur d'un des instituts européens les plus reconnus sur le climat, le Potsdam Institute for Climate Impact Research. Chaque pays peut être tenu pour responsable devant les tribunaux, même s'il n'est pas signataire des traités de l'ONU, ajoute-t-il. Une photo de Peter DeJong, Associated Press, indique un activiste tenait un éventail sur lequel on peut lire « Faites payer les pollueurs », alors qu'il manifestait devant la Cour internationale de justice le mercredi 23 juillet 2025. L'ancien émissaire pour le climat de Joe Biden, John Kerry, regrette qu'il faille le poids du droit international pour inciter les pays à faire ce qui est profondément dans leur intérêt économique. S'il est improbable que les États-Unis changent de voie sur le pétrole et les énergies fossiles, l'avis de la CIJ sera certainement testé devant les tribunaux du pays, prédit le professeur à l'École de droit du Vermont, Pat Paranto. Cela ne réussira pas avec la Cour suprême actuelle, mais ce n'est pas permanent. Le Vanuatu, du reste, prévoit déjà la prochaine étape. Demander à l'Assemblée générale de l'ONU de faire appliquer l'avis de la Cour. C'était « La CIJ ouvre la voie à des réparations climatiques par les États pollueurs ». Un texte de Richard Carter, Delphine Paysan et Benjamin Legendre de l'agence France Presse, paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi de nombreux cancers du poumon touchent-ils désormais des non-fumeurs? Un texte de Nina Agrawal et Alison Jiang du New York Times, paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir. Annie Chen a remarqué pour la première fois qu'elle était anormalement essoufflée en 2017 lorsqu'elle courait pour prendre l'autobus qui la ramenait chez elle dans le New Jersey après sa journée de travail à New York. Elle en a parlé à son médecin traitant en pensant à son père décédé d'un cancer du poumon à 71 ans. Mais son médecin lui a dit de ne pas s'inquiéter. Son père était un gros fumeur et Annie Chen n'avait jamais allumé une cigarette de sa vie. Elle a continué à éprouver des difficultés respiratoires, mais ce n'est que 2 ans plus tard qu'un médecin lui a prescrit une radiographie et qu'elle a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4. « Mon monde s'est effondré », a-t-elle déclaré. Elle n'avait que 48 ans, une fille de 11 ans, un mari qui avait également des problèmes de santé et un prêt hypothécaire à rembourser. « Ma famille a besoin de moi », se souvient-elle avoir pensé. Le cas de Mme Chen illustre une réalité déroutante pour les médecins qui étudient et traitent le cancer du poumon. Le cancer le plus mortel aux États-Unis. L'incidence et le taux de mortalité de cette maladie ont diminué au cours des dernières décennies, en grande partie grâce à la baisse de la consommation de cigarettes, mais les cancers du poumon non liés au tabagisme persistent. On pensait autrefois que le tabagisme était pratiquement la seule cause du cancer du poumon, explique la docteure Maria Teresa Landi, chercheuse principale au National Cancer Institute, qui fait partie des National Institutes of Health. Mais aujourd'hui, environ 10 à 25% des cancers du poumon dans le monde touchent des personnes qui n'ont jamais fumé. Chez certains groupes de femmes asiatiques et asio-américaines, cette proportion est estimée à 50% ou plus. Ces cancers attirent de plus en plus l'attention de chercheurs comme la docteure Landy, qui étudie le rôle que pourrait jouer l'exposition environnementale, les mutations génétiques ou d'autres facteurs de risque. Ils ont déjà trouvé quelques indices, notamment un lien évident avec la pollution atmosphérique. Les médecins testent également de nouvelles approches pour mieux détecter le cancer du poumon chez les non-fumeurs et tentent de comprendre pourquoi il est plus fréquent chez les personnes d'origine asiatique et chez les femmes, et pourquoi il touche de plus en plus de jeunes. Nous avons tous encore en tête l'image du Marlboro Man pour illustrer le cancer du poumon, explique la docteure Heather Wackley, chef du service d'oncologie à la faculté de médecine de l'Université de Stanford. Mais dans de nombreux cas, cela n'est plus vrai. Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi, ajoute-t-elle. À la recherche d'indices. De nombreux cancers du poumon chez les non-fumeurs n'ont pas de cause connue et ne sont découverts que par hasard. C'est le cas de Sandra Liu, 59 ans, qui vit dans le New Jersey. Madame Liu a reçu cette année un diagnostic d'adénocarcinome, le type de cancer du poumon le plus fréquent chez les non-fumeurs. Les médecins ont découvert la tumeur après qu'elle a passé un examen médical complet lors d'un séjour en Chine, une pratique courante chez certains expatriés chinois qui visitent le pays et qui comprend une imagerie thoracique. « Je n'aurais jamais pensé passer un tel examen », a-t-elle déclaré, soulignant qu'elle ne présentait aucun symptôme majeur et n'avait jamais fumé. Les scientifiques commencent à constater que la biologie du cancer chez les non-fumeurs comme Mme Liu diffère de celle observée chez les personnes qui ont des antécédents tabagiques et qu'elle pourrait nécessiter des stratégies de prévention et de dépistage différentes. Une vaste étude, baptisée Sherlock Long et menée par la Dr Lendy et ses collègues de l'Université de Californie à San Diego, examine les signatures mutationnelles ou schémas de mutation dans le génome des cancers de 871 non-fumeurs atteints d'un cancer du poumon à travers le monde. Leur dernière conclusion, publiée ce mois-ci dans la revue Nature, montre que certaines mutations ou modifications de l'ADN sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes qui habitent dans des régions où la pollution atmosphérique est élevée, comme Hong Kong, Taïwan et l'Ouzbékistan. Plus la pollution est importante, plus le nombre de mutations est élevé. L'étude n'inclut pas les données de l'Inde, considérée comme le pays où le niveau de pollution extérieure est le plus élevé. Les chercheurs n'ont pas seulement découvert que la pollution pouvait endommager directement l'ADN. Ils ont également observé des signes indiquant que la pollution accélère la division cellulaire, ce qui augmente encore le risque de cancer. Des études ont également montré que les personnes qui ne fument pas, mais ont des antécédents familiaux de cancer du poumon, comme Mme Chen et Mme Liu, les deux grands-pères de Sandra Liu, étaient atteints de cette maladie, courent un risque accru. Cela pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques communs, un environnement commun ou les deux, selon la Dr. J. Kim, chef du service de chirurgie thoracique à City of Hope à Duarte, en Californie. Les scientifiques savent également que les non-fumeurs atteints d'un cancer du poumon sont plus susceptibles que les fumeurs d'avoir certains types de mutations motrices, des modifications du génome qui peuvent provoquer le cancer et favoriser sa propagation, a déclaré le Dr. Kim. En revanche, les fumeurs ont tendance à accumuler au fil du temps de nombreuses mutations qui peuvent finalement conduire au cancer. Cette différence dans le type de mutation pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le cancer du poumon chez les moins de 50 ans est plus fréquent chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Il existe probablement d'autres facteurs, notamment l'exposition au radon, à l'amiante et peut-être à l'acide aristolochique, un composé autrefois courant dans la médecine traditionnelle chinoise. Les recherches de la Dr. Lundy ont établi un lien entre ce composé et des mutations cancéreuses du poumon chez des patients taïwanais. Taïwan a interdit les produits contenant cette substance en 2003. Des études menées en Asie ont également suggéré que le tabagisme passif, les fumées d'huile de cuisson et des antécédents de tuberculose ou d'autres maladies pulmonaires pourraient être en cause. Cependant, ces facteurs potentiels sont moins courants aux États-Unis, où les femmes asio-américaines qui ne fument pas sont encore près de deux fois plus susceptibles que les autres femmes de recevoir un diagnostic de cancer du poumon, selon Scarlett Gomez, professeure d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université de Californie à San Francisco. Afin de comprendre les causes de cette disparité aux États-Unis, Mme Gomez, le Dr Wakely et leurs collègues d'autres universités du nord de la Californie étudient actuellement les relations entre les gènes, les contaminants environnementaux et le cancer du poumon chez les femmes asiatiques américaines non fumeuses. À terme, nous voulons être en mesure de déterminer des facteurs de risque exploitables, comme nous le faisons pour le cancer du sein et le cancer colorectal, a déclaré Mme Gomez. Réexamen des recommandations en matière de dépistage. Des études telles que celle de Scarlett Gomez pourraient aider à déterminer qui devrait bénéficier d'un dépistage du cancer du poumon. Aux États-Unis, le dépistage systématique n'est recommandé que pour les personnes âgées de 50 à 80 ans qui ont fumé au moins l'équivalent d'un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans. De ce fait, le cancer du poumon chez les non-fumeurs n'est souvent détecté qu'à un stade avancé, explique la docteure Hélène Schum, oncologue au Centre de santé universitaire NYU, Langone Health. Cela peut avoir des conséquences dévastatrices pour des patientes comme Mme Chen qui suit toujours un traitement après une troisième métastase de son cancer. La docteure Schum et d'autres chercheurs étudient la possibilité d'étendre le dépistage à d'autres groupes. À Taïwan, un essai national a testé l'efficacité des tomodensitométries chez des personnes âgées de 55 à 75 ans qui n'avaient jamais fumé mais présentaient un autre facteur de risque. Les médecins ont détecté un cancer chez 2,6 % des patients, un taux suffisamment élevé pour que Taïwan propose désormais un dépistage systématique aux non-fumeurs ayant des antécédents familiaux de cancer du poumon. La docteure Schum et ses collègues ont récemment mené une étude pilote similaire auprès de femmes d'origine asiatique âgées de 40 à 74 ans et n'ayant jamais fumé. Ils ont constaté des taux de cancer invasifs comparables à ceux de l'étude taïwanaise. Cette étude ne portait toutefois que sur environ 200 femmes. Il faudrait mener des recherches beaucoup plus approfondies pour déterminer qui, aux États-Unis, pourrait bénéficier d'un dépistage plus large et si celui-ci peut réduire de manière significative le nombre de décès par cancer du poumon. Le dépistage d'un plus grand nombre de personnes pourrait gonfler le nombre de faux positifs, ce qui peut signifier que des patients subissent des biopsies et d'autres interventions dont ils n'ont pas besoin. De plus, certains cancers découverts par les médecins se développent si lentement qu'ils ne causeront peut-être jamais de dommages, a déclaré la docteure Nathalie Louis, chirurgienne thoracique à la faculté de médecine de l'Université de Stanford. Que se passerait-il si nous retirions tous ces petits cancers du poumon qui n'auraient jamais mis la vie des patients en danger? D'un autre côté, elle pense aux patients qu'elle voit régulièrement atteints d'un cancer du poumon agressif ou avancé, mais qui n'ont jamais fumé. S'il existait un dépistage, nous pourrions leur sauver la vie, selon la docteure Louis. La bonne nouvelle, c'est que le taux de survie au cancer avancé s'est amélioré grâce à de nouvelles thérapies qui permettent de maintenir efficacement la maladie à distance pendant des années chez de nombreux patients. Ces traitements ont bénéficié à Leah Phillips de Pee-Wee Valley dans le Kentucky. Les médecins ont d'abord diagnostiqué à tort de l'asthme, puis de l'anxiété. Plus tard, ils ont déclaré qu'elle avait une pneumonie. Lorsqu'un oncologue lui a finalement annoncé en 2019 qu'elle avait un cancer du poumon métastatique, il lui a donné de 6 à 12 mois à vivre. « Rentrez chez vous et mettez vos affaires en ordre », lui a-t-il dit, ne se souvient-elle. Elle avait 43 ans et ses enfants étaient âgés de 9, 13 et 14 ans. « Je ne quitterai pas mes enfants », s'est-elle dit. Après avoir obtenu un deuxième avis, elle a commencé à prendre un médicament qui cible l'une des mutations responsables du cancer du poumon. Elle a prié pour pouvoir assister à la remise de diplôme de son aîné. « J'ai pleuré pendant toute sa dernière année d'école secondaire », raconte-t-elle. En juin, elle a vu son deuxième enfant obtenir son diplôme. « Maintenant, je dois tenir jusqu'au prochain », dit-elle. Madame Phillips, qui a cofondé une organisation à but non lucratif appelée Young Lung Cancer Initiative, afin de sensibiliser le public à cette maladie, explique que les gens la regardent avec méfiance lorsqu'elle leur dit qu'elle a un cancer du poumon, mais qu'elle n'a jamais fumé. Ils ne savaient pas que c'était possible. « Ce n'est plus le cancer du poumon de votre grand-père », leur dit-elle. C'était « Pourquoi de nombreux cancers du poumon touchent-ils désormais des non-fumeurs ?» un texte de Nina Agrawal et Allison Yang du New York Times, paru le 22 juillet 2025 dans Le Devoir.
Voyage à vélo, des régions parfaites pour une escapade sur deux roues. Un texte commandité paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. L'engouement pour le cyclotourisme ne se dément pas. La beauté de la chose, c'est que cette façon de voyager n'est pas réservée qu'aux cyclistes aguerris. Elle est accessible aux vacanciers de tous les niveaux. Dans le sud du Québec, quatre régions voisines débordent d'attrait pour les amateurs de vélos de route, de vélos de gravier et de sentiers en montagne. Découvrez-les avec ces plans de vacances pensés pour pédaler un peu, beaucoup ou tout le temps. Destination, Canton de l'Est. Dans les Cantons de l'Est, chaque kilomètre est une invitation à adopter le cyclotourisme. Ici, à chacun son rythme. Les routes panoramiques, les sentiers de gravel et les circuits gourmands laissent aussi bien place aux sorties sportives qu'aux sorties contemplatives. La région est notamment l'hôte d'un tronçon de la véloroute gourmande. L'itinéraire qui relie Montréal à Sherbrooke, en traversant la Montérégie, est jalonné d'arrêts épicuriens et agrotouristiques. Vous pourrez également emprunter des parcours fraîchement inaugurés, dont le circuit Sir Lister, sur route asphaltée, ou la boucle des érables, sur gravel. Les plus aventuriers pourront aussi prendre la clé des champs avec trois nouveaux circuits de vélo d'aventure. Le premier de ces tracés inédits, la Gravelée des saveurs, vous propose 230 km d'exploration nomade sur trois journées. Où dormir? Pour reposer vos mollets, pédalez en direction du camping Aventure Mégantique, un établissement certifié Bienvenue cycliste. Piquez-y votre tente ou optez pour le confort d'un pod, l'une des nombreuses options de prêt à camper sur le site. La reine des véloroutes fête ses 30 ans. En 2025, la Route verte célèbre 30 années d'existence. Lancée par Vélo-Québec, cette initiative visionnaire a permis de créer un réseau de plus de 5300 km. Il s'agit du plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord. Reliant les régions entre elles et le Québec à ses voisins, la route verte incarne l'art de voyager lentement. L'emprunter, c'est pédaler au cœur de paysages exceptionnels et se rapprocher des communautés locales qui les habitent. Depuis maintenant trois décennies, ce réseau fait du Québec une référence mondiale en matière de tourisme à vélo. Destination Montérégie. Au autre destination vélo incontournable, la Montérégie. La région peut se targuer de posséder 640 km de pistes cyclables, le plus vaste réseau de la sorte à travers la province. En toile de fond, vous trouverez une mosaïque de paysages. Vous roulerez tantôt au fil de l'eau, tantôt le long des terres agricoles et des champs de tournesol. Dans ce décor bucolique, chaque coup de pédale vous rapprochera un peu plus de la nature. Parmi les itinéraires chouchous du coin, la piste cyclable Soulanges et celle du canal de Beauharnois vous réservent une agréable balade, bercée par le clapotis de l'eau. Pour une sortie en famille, découvrez la Montérégiade. Avec ses faibles dénivelés et ses sentiers bien aménagés, cet ancien tracé de chemin de fer offre un parcours en nature accessible à tous les cyclistes. Enfin, sachez que le segment montérégien de la Véloroute gourmande s'étend sur une centaine de kilomètres de pur plaisir. Où dormir? Au cœur de la marina de Chambly, Eau Villa vous invite à dormir sur l'eau. Les maisons flottantes disposent chacune d'une terrasse, d'un spa et d'une vue incroyable sur la rivière Richelieu. Destination Chaudière-Appalaches. En Chaudière-Appalaches, les reliefs généreux offrent un formidable terrain de jeu aux amateurs de vélos de montagne. Idéal pour les mordus qui aiment gravir les massifs, les dévaler et recommencer. Dans tous les cas, que vous soyez adepte de descentes techniques ou de promenades plus tranquilles, le territoire a de quoi vous séduire. À Lévis, par exemple, vous pouvez longer le fleuve en empruntant le parcours des Anses, l'un des plus beaux couloirs cyclables de la région. La station touristique du Massif du Sud inaugure ses premiers sentiers de vélos de montagne, ce qui en fait maintenant une destination quatre saisons. Entre le mont Adstock, le mont Orignal et le mont Saint-Georges, la région offre tout un lot de sentiers techniques, de sections roulantes, de virages et de montées. Pour une initiation en douceur, le parc des Appalaches propose un parcours facile de 14,5 km entre les sphaignes et les plantes carnivores d'une tourbière. Où dormir? Avec 150 sites de camping aménagés, des refuges en forêt et plusieurs unités de prêts à camper, le parc des Appalaches offre des hébergements qui plairont au plus grand nombre. Des campings accueillants pour les cyclistes. L'association Camping Québec compte parmi ses membres une centaine d'établissements certifiés Bienvenue cycliste. Ces campings conviviaux offrent des services adaptés aux besoins des cyclotouristes. Emplacement pour tente sans réservation, support à vélo sécurisé, outils pour effectuer des réparations mineures et prises pour recharger les vélos à assistance électrique. Généralement situés à proximité des pistes cyclables et des circuits routiers les plus populaires, ces hébergements sont idéaux pour faire une pause bien méritée pendant vos périples à vélo. Destination Centre du Québec. Quelques 1000 km de circuits routiers font du Centre du Québec un incontournable pour des vacances à deux roues. La région est d'ailleurs parmi les pionnières dans le développement du vélo de gravier, gravel bike, une discipline qui compte un nombre grandissant d'adeptes. En roulant entre les contreforts des Appalaches et les plaines du Saint-Laurent, vous aurez le choix de contempler tranquillement l'horizon ou de tester votre endurance. Parce qu'ici, il y a un peu de tout pour tout le monde. La véloroute des Appalaches s'avère une belle porte d'entrée pour explorer la région. Elle propose 12 circuits routiers bien balisés auxquels s'ajoutent 9 parcours de vélos de gravier. Les familles y trouvent également leur bonheur avec des itinéraires comme la Petite Aventure, une boucle à parcourir en 3 jours. Rouler léger, en utilisant les services de navette et de transport de bagages à votre disposition. Et pour un plan plus ambitieux, cap sur la Grande Boucle, un tracé reliant le centre du Québec à ses voisines, tout aussi mordues de vélo, la Montérégie et les Cantons de l'Est. Confiez votre voyage à vélo à des experts. L'Association des réceptifs et forfaitistes du Québec regroupe des agences, des voyagistes et des réceptifs qui créent des forfaits clés en main pour découvrir le Québec. Certains membres de l'association, comme Vélo Québec Voyage, Équilibre, Le Monde à Vélo, Gendron Vélo, Division de Voyage Gendron, et Vitesse Bonheur, Bougex, opéré par Groupe Voyage Québec, se spécialise dans l'offre d'escapades cyclistes sur mesure à travers le Québec. Faire affaire avec ces spécialistes, c'est se simplifier la vie et profiter de tarifs exclusifs, de conseils avisés et d'une assistance avant, pendant, et après le voyage. Un pépin? En cas d'annulation ou de changement au programme, vous bénéficierez de politiques avantageuses et de la protection automatique du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, FICAV. C'était Voyage à vélo, des régions parfaites pour une escapade sur 2 roues. Un texte commandité, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.